Ce ne fut qu'une fois à peu près revigoré par le jet fort et concentré en son centre d'un pommeau de douche de bonne facture, que Dimitri, Hori, se demanda ce qu'il pouvait bien faire dans cette chambre d'hôtel. Il n'y avait pas pensé avant, le cerveau trop engourdi par il ne savait quoi, peut-être simplement par une nuit trop longue. Sur la qualité de la chambre, il n'avait rien à redire. Lui, qui avait souvent vécu dans des hôtels, savait reconnaître une chambre confortable. Sans être immense, elle contenait, sans qu'il la remplisse, deux fauteuils profonds en cuir craquelé, un canapé en velours marron et trois chaises en osier tressé. Un salon, en somme. Dans la même pièce que le lit, mais lui tournant le dos et faisant face d'abord à une longue table basse en bois, puis à une cheminée de taille tout à fait satisfaisante. Dans l'âtre froid, il remarqua un bout de tissu cramé qui avait dû lui servir de veste la veille encore. Certes, il faisait doux dans la pièce, mais pourquoi la veste au feu? Le lit aurait pu facilement accueillir trois individus en léger surpoids, non seulement parce qu'il était large, mais surtout parce que le matelas était épais et que plusieurs hommes lourds n'auraient pas suffi à lui faire toucher le sommier. Quand il réalisa qu'il était en train d'évaluer mentalement la qualité du mobilier, un petit pouffement tout à fait audible lui échappa. Ce n'est qu'en regardant par la fenêtre qu'il prit finalement conscience qu'il n'était pas là où il devait être. La grande baie vitrée laissait voir une vallée descendant très bas, très loin, jusqu'à se jeter de manière abrupte dans ce qui semblait être une minuscule voie d'eau. Surtout, massive, séparée de l'hôtel par cette même voie d'eau, bien en vis-à-vis, à peut-être quelques centaines de mètres, Dimitri pouvait admirer la rive d'en face. Pentue, escarpée, pas tout à fait verticale mais presque une falaise. Mais une falaise sur laquelle tenaient miraculeusement des bâtiments. Des bâtiments d'apparence fastueuse, dont certains même semblaient être des habitations. Divaguant un instant, Dimitri pensa que seul un peuple de Dahu pourrait vivre commodément sur ce type de relief. Dimitri se souvenait avoir rejoint une gare très tôt le matin. Il y avait eu un long voyage en train, mais il avait dû être saoul ou fiévreux, ou bien peut-être qu'il avait seulement dormi très longtemps. Le fait est que du voyage en soi, il ne se rappelait de rien. Il se souvenait en revanche très bien de la raison qui l'avait poussé à prendre ce train, et c'est pour cette même raison qu'il était certain qu'il n'aurait jamais dû être dans cette chambre d'hôtel ce matin-là. Le décor dans lequel il aurait dû se réveiller ce matin-là était tout autre. Une spartiate maison de campagne, au milieu de rien, au milieu du maquis. Une vue sur rien d'autre que des arbres broussailleux entourés de mauvaises herbes qui semblaient avoir été là de tout temps. Un feu de cheminée, ça oui, mais allumé. Et au sol, un carrelage bien froid, et dessus quelques chaises en plastique blanc. En guise de couchage, une natte disposée près du feu. C'est en tout cas comme ça qu'il se souvenait de l'endroit où il aurait dû être ce matin-là. Surtout, il n'aurait pas dû se réveiller seul, mais entouré de ses deux plus fidèles amis. Un lieu isolé, dont peu de gens connaissaient l'existence et où il était censé pouvoir faire profil bas, le temps qu'en ville, la situation s'apaise. En sentant qu'un vertige à même de le faire chuter allait l'obliger à quitter la fenêtre pour s'asseoir sur le rebord du lit, Dimitri comprit immédiatement pourquoi il n'était pas là où il aurait dû être. Quitter la ville était une question de survie. Des menaces avaient été proférées, des proches intimidés, du mobilier dégradé et les reliques d'un boîtement à la jambe gauche de Dimitri témoignaient de la gravité de la situation. Pour autant, prendre la décision de partir une fois pour toutes demeurait un crève-cœur. Autant qu'il s'en souvienne, ce qui se passa l'avant-veille fut que Dimitri but seul toute la nuit dans son appartement. Il but en pleurant et il pleura en faisant sa valise. Il pleura jusqu'au moment où il ne pleura plus, jusqu'au moment où l'alcool fit exactement ce que l'on attend de lui, minimiser, distraire. Alors, Dimitri commença à voir ce départ d'un très bon œil et il termina sa valise et élabora même une compilation de chansons de voyage pour le train, de celles qu'il aimait d'ordinaire écouter en voiture. Ensuite, il continua à boire pour ne pas redescendre avant le petit matin et l'heure du départ. Quand il sentit la fatigue l'affaiblir, il goba deux petits cachets d'extasie. Au bout d'un certain point, son cerveau fut réduit à une sorte de bouillie inapte à la pensée, et encore plus à l'émotion, ce qui était exactement ce qu'il cherchait. Un pilote automatique, dont la seule mission était de le mener jusqu'à la gare. C'est donc en retissant mentalement le fil de cette soirée que Dimitri comprit pourquoi il n'était pas là où il aurait dû être. Saoul, épuisé, il avait dû tout bonnement rater son arrêt et descendre au terminus. Un désagrément mineur qui serait réglé dans le quart d'heure dès qu'il aurait pris un café et des informations concernant l'emplacement de la gare et l'horaire du prochain train le ramenant à sa destination initiale. Dimitri descendit donc au bar de l'hôtel, encore un peu envasé mais prêt à mettre derrière lui cette histoire absurde. Il devait être très tôt car lorsqu'il pénétra dans la grande salle où devaient se prendre les petits déjeuners, il n'y avait personne aux tables exception faite d'un homme au loin, de dos, recourbé sur son assiette, peut-être mort. La salle était grande, et l'homme de dos, mais même de loin, l'on pouvait remarquer qu'il était vieux. D'où peut-être le fait que Dimitri s'imagina qu'il aurait pu être mort, étouffé par un croissant, qui sait. L'attention que lui prêta Dimitri ne dépassa pas cette conjecture, et à aucun moment ne lui vint à l'esprit de vérifier l'état de santé du vieillard. Il n'y avait personne non plus derrière le bar. Dimitri s'assit au comptoir et se mit à feuilleter distraitement un canard sportif qui traînait sur un tabouret. Il datait de la veille. On y apprenait, ce qui l'étonna sans le bouleverser, que toutes les épreuves de lancer allaient être supprimées des compétitions d'athlétisme aux Jeux Olympiques. Au bout de 2 minutes, il leva la tête. Le barman n'était toujours pas apparu. Quelqu'un, en revanche, dont il n'avait pas remarqué la présence jusque-là, s'était assis à côté de lui, sur le tabouret où reposait précédemment le journal. C'était le vieux monsieur du fond de la pièce. C'est du moins ce que Dimitri déduisit de la couleur et de la forme de ses cheveux, d'après ce qu'il avait aperçu de l'arrière de son crâne. Dans un réflexe, il tourna les yeux vers le fond de la pièce. La table était vide. La réponse la plus évidente était qu'en effet, le vieux monsieur avait migré vers le comptoir. Dimitri le salua d'un hochement de tête, sans prononcer un mot. Il ne souhaitait pas à ce moment-là qu'une conversation s'engage. Il attendait le barman et ne voulait parler qu'à lui. Peut-être un préjugé sur les personnes âgées qu'il imaginait esseulées et par conséquent trop souvent désireuses d'entamer des conversations sur n'importe quel prétexte. Peut-être aussi un préjugé sur les barmanes qui, quand on y pense, n'avaient pas spécialement de raison d'être jeunes. Il allait donc se replonger dans son journal, mais le vieux monsieur ne lui en laissa pas le temps. Cherchez-vous un endroit où vous cacher? Dimitri jeta un regard circulaire à la pièce et ne put nier l'évidence. Ils n'étaient que deux dans la salle. C'était donc bien à lui que l'homme s'adressait. Il le regardait d'ailleurs bien dans les yeux. Je vous demande pardon. Vous m'avez bien entendu. Je vous ai demandé si vous aviez besoin d'un endroit où vous cacher.